Amen. Amen. Revenir au fondement. Revenir au fondement. Épisode 8 de la première saison. Quelques rappels sur les dernières études. On ne va pas revenir jusqu'à la première étude, ce serait trop long. Mais je vous rappelle que la dernière fois, on avait franchi une nouvelle étape. On avait quitté le livre de Néhémie pour arriver dans le livre des Actes des Apôtres. Et bien sûr, quand on parle du livre des Actes des Apôtres, quel fondement on pose ? Oh là 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 là. Je recommence. La dernière fois, nous avons franchi une nouvelle étape. Nous sommes passés du livre de Néhémie au livre des Actes des Apôtres. Vous vous en rappelez ? Hein ? Et nous avons commencé à parler d'un fondement qu'on ne peut pas éluder lorsqu'on lit les Actes des Apôtres. C'est quoi ce fondement ? Il y en a deux qui ont suivi, c'est bien. Donc je vais recommencer l'étude de la dernière fois. Nous avions parlé du rôle indispensable du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut se dispenser du Saint-Esprit ici ? Qui lève la main ? Qui peut prétendre se tenir devant Dieu ? Qui peut prétendre comprendre quoi que ce soit du royaume de Dieu ? Qui peut prétendre servir Dieu s'il n'a pas le Saint-Esprit ? Personne. C'est un élément incontournable de la vie chrétienne. Il n'est pas réservé aux chrétiens pentecôtistes. Tous les chrétiens sur terre croient au Saint-Esprit. Vous le savez ? Tous les chrétiens. Quelle que soit l'obédience, ils croient tous au Saint-Esprit. Après, si on approfondit, on n'a pas tous les mêmes notions sur certaines choses, mais on croit à la Trinité, à la troisième personne, le Saint-Esprit. Nous avons vu que le Saint-Esprit n'est pas apparu comme ça. Le Saint-Esprit était déjà là dans l'Ancien Testament. C'est lui-même qui était là à la création du monde, le souffle. Mais il est aussi très remarqué que dans l'Ancien Testament, des hommes, des femmes étaient remplies de l'Esprit. Mais nous voyons qu'ils étaient peu nombreux à avoir reçu cette onction particulière. Et justement, si la Pentecôte a lieu, c'est qu'entre-temps, il s'est passé quelque chose. Et j'en ai parlé tout à l'heure en introduction de la Sainte-Seine. La croix permet au Saint-Esprit maintenant de venir habiter en nous, en nous tous qui croyons. Pas seulement certaines personnes réservées à certains services qui, pour ce service, ont besoin d'une onction. Cette promesse est inscrite dans le temps. Le prophète Joël annonce, Joël chapitre 2, verset 28-29, vous connaissez. Le Saint-Esprit viendra sur eux, vos jeunes gens prophétiseront, ils auront des songes, etc. Ensuite, Jean-Baptiste qui précède Jésus, qu'est-ce qu'il dit Jean-Baptiste ? Moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera de feu et d'esprit. Jésus lui-même annonce la Pentecôte. D'abord, il dit, dans une image qu'il donne, souvent on a tendance à mal comprendre ce passage et l'appliquer d'une manière un peu étroite, « Demandez, vous recevrez ». Oh, c'est génial ça comme verset. D'ailleurs, faites gaffe parce que si vraiment vous l'interprétez mal, vous allez être souvent déçus. Parce que ce n'est pas la baguette magique. Je demande et pop, le Seigneur, il est à mes ordres. Ce n'est pas ça. Quand vous lisez le passage dans l'évangile de Luc, il est parlé, il est donné l'image après du Père qui donne du pain et pas une pierre à son enfant, etc. Et à la fin, il dit « Si vous qui êtes méchants, il parle de moi, pas de vous. Si vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, alors à combien plus forte raison le Père, qui est dans les cieux, donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent ? Amen. Donc c'est vraiment une promesse, c'est quelque chose qu'on peut demander, le Saint-Esprit. Les choses spirituelles, si vous les demandez, vous les recevez. D'accord ? Ça concerne les choses spirituelles. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Ce n'est pas chercher un trésor dans l'île perdue là-bas. Dans le livre des Actes, au début du livre des Actes, avant de monter au ciel, Jésus dit à ses disciples de se rendre à Jérusalem pour recevoir la promesse. Donc tout cela a été annoncé, inscrit dans le temps. On a vu aussi que c'était une promesse qui va avoir, alors qu'elle va s'accomplir, des effets visibles. Il y a des promesses de Jésus sur ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. Il dit que de leur sein couleront, pardon, des fleuves d'eau vive. Non, ça vous fait rien. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, il y a quelque chose qu'on communique à ceux qui nous entourent. Parfois, on est même surpris, les gens ils nous disent ah. Et nous, on fait ah oui, c'est vrai. On oublie qu'on n'est pas normaux. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Dans le siècle dans lequel nous vivons, et l'actualité nous le montre, beaucoup ont tressailli de joie pendant cette semaine. Moi, je n'ai pas tressailli de joie du tout. L'actualité nous montre que les ténèbres s'épaississent. Et plus on va aller, plus ceux qui seront remplis de l'Esprit de Dieu seront différents et se feront remarquer. Pas remarquer pour faire les beaux, hein. Mais on ne pourra pas ne pas remarquer que quelqu'un est rempli de l'Esprit. C'est aussi le côté positif de l'épaississement des ténèbres. C'est que plus les ténèbres s'épaississent, plus on voit la lumière. Oui? Si j'avais une lampe allumée là, j'avais fait ça à une réunion interéglise, je ne sais pas si vous vous souvenez. Si je mets une lampe allumée là depuis le début de la réunion, vous n'auriez même pas fait attention qu'elle était là. Si on éteint toute la lumière, on met tout dans le noir. Oh! Vous allez dire, oh, il y a une lampe là. Ouais, c'est vrai ou pas? Rôle indispensable du Saint-Esprit, des fleuves d'eau vive. Nous représentons la vie, la paix sur cette terre. Donc attention, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit, hein, parce que moi, Luc, tel que je suis né de mes parents, je ne transmets pas la vie et la paix. Hein. Si le Saint-Esprit me saisit, alors je transmettrai la vie et la paix. Amen. On a vu aussi que ça donne à l'Église une dimension prophétique. Que ça veut dire prophétique? Ça veut dire que des hommes, des femmes dans l'Église parlent de la part de Dieu. On a entendu des dons spirituels ce matin, mais il n'y a pas que ça. Dans une discussion après le culte, vous pouvez être prophétique, mes frères et sœurs. Vous le savez ou pas? Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut vous utiliser pour dire juste un mot, une phrase prophétique à une personne. Prophétique, ça ne veut pas dire prédire l'avenir, hein. Ça peut, mais c'est parler de la part de Dieu. C'est ça, la dimension prophétique avec les dons spirituels, bien sûr. Les paroles de connaissance, paroles de sagesse. Cette dimension prophétique, elle est nécessaire. Quand il est dit dans Actes 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il est dit après? Et vous serez mes témoins. C'est ça aussi la dimension prophétique. Ça veut dire je suis appelé à parler de celui qui m'a sauvé. Je l'annonce de la part de Dieu, je vous annonce que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Le Saint-Esprit est indispensable pour être un témoin dans ce monde. Et plus on va avancer, plus ça va être indispensable. Je ne sais pas si je dois dire ça, parce que même quand il n'y a pas les ténèbres, c'est quand même indispensable. Mais à plus forte raison, quand les ténèbres s'épaississent, le Saint-Esprit aura besoin d'être là, présent en nous, pour nous donner l'intelligence. Ça vous arrive pas des fois d'être dans une situation où vous voudriez parler du Seigneur et vous savez, vous trouvez pas ce qu'il faudrait dire. Ben, si ça vous arrive, dites Seigneur, pardon. Pardon parce que je n'ai pas veillé à ce que le Saint-Esprit soit assez présent en moi. Parce que si le Saint-Esprit est présent en vous, vous ne vous retrouverez pas dans une situation comme ça. Il va vous donner les paroles au bon moment. Amen. Le Saint-Esprit peut vous donner le discernement sur les gens que vous avez en face de vous. C'est tellement puissant d'avoir le Saint-Esprit, je vous assure. On ne peut pas passer à côté. On ne peut pas dire, ah, mais c'est certainement pour les autres. C'est pour le pasteur. Ah, c'est pour les gens qui sont bien. Moi, je veux être rendu capable d'être un témoin. Je veux que Dieu me rende capable d'être un témoin. Je ne suis pas capable par moi-même. Je veux qu'il me fasse de moi un témoin. Des fois, un simple regard. Une écoute attentive, Un moment où tout le monde est énervé et vous restez en paix. Ça parle. Ça touche le cœur des gens. Les gens viendront vous voir à vous, je l'ai expliqué la dernière fois, quand ils ont des problèmes. Vous êtes une quinzaine de personnes à travailler dans un lieu de travail, mais la personne vers laquelle les gens viendront, c'est vous. Si bien sûr vous êtes rempli d'esprit, vous avez transmis la paix, la vie et tout ça. Hein. Si vous êtes dans les embrouilles et dans les discordes et les critiques du patron, etc., croyez pas que les gens viendront vous voir. Hein. J'avais annoncé la troisième partie, donc après la première partie, une promesse qui est inscrite dans les temps. Une deuxième partie, une promesse qui aura des effets visibles, on vient d'en parler, une promesse qui est accomplie. Qui est accomplie. Dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4, on va lire ensemble ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Et même si peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu des centaines de prédications sur ce texte, je ne suis pas gêné de reprêcher dessus. Parce que vraiment, on a besoin d'entendre les choses qu'on va entendre ce matin. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, tout à coup. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Quel est le contexte? Le contexte de cet événement. Le mot Pentecôte, vous savez ce qu'il signifie, le mot Pentecôte? Comment? 50. 50. Exactement. 50, c'est le nombre de jours qui sépare cette fête de la fête de Pâques. 50 jours. La Pentecôte, dans l'ancienne alliance, c'est la fête des moissons. Suivez bien le raisonnement. La Pentecôte, c'est la fête des moissons. Vous vous rappelez qu'en 2023, on a déclaré l'année de la moisson. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas eu d'autres déclarations d'année en 2024? Parce que le Seigneur m'a mis la conviction que la moisson, ça continue là. En 2024, ça continue. Ce n'est pas achevé. La moisson, c'est notre vision. Allô? La moisson, c'est notre vision. Amen. Et la Pentecôte, dans l'Ancien Testament, c'était une réjouissance parce qu'il y avait la récolte des produits des champs. Dans le Nouveau Testament, les réjouissances, c'est pour la conversion des âmes. Amen. Vous serez mes témoins. Pourquoi? Pour qu'il y ait une moisson d'âmes. C'est ici le lien entre la Pentecôte de l'Ancienne Alliance, la Pentecôte de la Nouvelle Alliance. Nous sommes remplis de l'Esprit pour la moisson, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit a été donné pour la moisson. Oui ou non? Le Saint-Esprit a été donné pour la moisson. Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance, hein, et vous serez, je l'ai souligné en rouge, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Partout où nous sommes témoins. D'accord? On ne fait pas ceux qui sont religieux quand on arrive le dimanche matin à l'église. Alléluia, amen. Et pendant toute la semaine, celui-là, je le décalque. Ouais, c'est pas facile, hein, de ne pas jouer un rôle. Allez, soyez honnête. Non, Seigneur, je veux que ce soit à chaque seconde de ma vie, que je sois un témoin. Et c'est là qu'on voit, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est juste pas possible. Comment puis-je être, moi, être un témoin à chaque seconde de ma vie sans le Saint-Esprit? Impossible. Impossible. Le jour de la Pentecôte, la moisson, c'est 3000 âmes. La puissance du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. On voit cet objectif de 3000 âmes comme un truc, waouh. Vous savez que ce ne serait pas très compliqué, hein? Si chaque chrétien amenait une âme au Seigneur pendant l'année 2024, si chacun en amène une âme au Seigneur, bah déjà on multiplie par deux. Je ne suis pas très fort en maths, mais voilà. Est-ce que vous fixez des objectifs? Ou est-ce que vous êtes habitué à ne plus parler du Seigneur autour de vous? Et vous êtes habitué à ce que les gens que vous connaissez, à qui vous témoignez, bah, vous les invitez à l'église, ils ne veulent jamais venir. Vous leur avez parlé du Seigneur, ils ne se convertissent pas. Bon, bah voilà, c'est comme ça. On ne doit pas s'habituer à ça, mes frères et sœurs. Parce que si on s'habitue, on ne sera pas à genoux. Si on s'habitue, on ne sera pas à genoux. Moi, j'ai lu des récits d'évangélistes. Moi, je me sens tout petit à côté d'eux, hein. Des gars qui font des missions d'évangélisation, ils passent des nuits entières à pleurer sur les âmes. Tellement ça les fait souffrir de voir des gens perdus. A pas besoin d'une action du Saint-Esprit dans nos cœurs, mes frères et sœurs, pour qu'on ait cette même émotion de compassion que Jésus devant les foules sans berger? Qu'est-ce qui peut nous donner cet amour des perdus? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Jean 4, 35, il est dit ceci, les champs blanchissent. Amen. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Vous l'avez pas entendu ce verset il n'y a pas longtemps? Vous l'avez pas entendu? Nathanaël, le futur pasteur de l'église, a eu ce verset sur le cœur en arrivant. Il ne savait pas de tout ce qu'on était en train de dire, l'année de la moisson, tout ça, il ne savait pas. Et moi, je crois que nous devons nous préparer à quelque chose là. Mais si on se dit, ah super, il y a un nouveau pasteur, il y a des nouvelles dynamiques, tout ça, et qu'on s'installe en spectateur, il ne va rien se passer du tout, moi je vous le dis. Il ne va rien se passer du tout. On est chacun acteur. Chacun acteur de la moisson. Chacun serviteur à plein temps. Vous savez que je m'énerve à chaque fois qu'on dit le serviteur à plein temps pour le pasteur. Ah, j'ai horreur de cette expression. On est tous serviteurs à plein temps. Tous. Tu es au travail, tu sers le Seigneur. Tu es dans ta famille, tu sers le Seigneur. Tu sers le Seigneur tout le temps. Amen. L'accomplissement de la promesse. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel, je le relis pour qu'on voit chaque point. Il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler dans d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous voyez que quand Jésus il parle, il ne parle pas pour rien. Il leur a dit quelques jours auparavant, allez à Jérusalem et vous allez recevoir ce qui a été promis. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça arrive. Quand Jésus dit quelque chose, ça arrive. Ouais, vous êtes d'accord avec ça? Ne doutez pas de ce que Jésus dit, hein. Quand Jésus dit quelque chose, ça arrive. Et ils sont allés, ils se sont mis dans la chambre haute. On peut imaginer plein de scénarios, hein. Ils sont là. L'ascension, c'est combien de jours après la mort de Jésus? 40 jours. Donc si vous savez compter, la Pentecôte arrive combien de jours? 10 jours après l'ascension. Donc on peut compter que... Alors on ne sait pas combien de temps ils ont mis pour rejoindre Jérusalem, mais bon, 8, 9 jours, 10 jours, dans la chambre haute, en train de prier. J'imagine, moi, dire, bah dis donc Jésus, hein, il nous a dit que un jour... Nous, on est pressés, hein, le premier jour, on arrive, on prie, on dit, bah, Jésus l'a dit, je le veux. Ah mince, premier jour, il ne s'est rien passé. Deuxième jour. Ah, Jésus l'a dit. Deuxième jour, rien. Troisième jour, rien. Rien, rien. Mais ils ont continué. Ils ont continué jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. On manque de persévérance, mes frères et sœurs. Je crois qu'on manque de persévérance, tous. On est dans un monde aujourd'hui où c'est tout, tout de suite. On ne sait plus attendre. Vous avez vu, hein, vous qui avez des enfants, mais même les ados, les jeunes autour de nous, bah, s'il y a un temps d'attente, ils deviennent fous. Parce qu'on a tout, tout de suite, on veut tout, tout de suite. On est là, enfin, moi je me surprends moi-même, hein. C'est rigolo parce que quand je suis en prison, j'ai pas mon téléphone portable. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Mais des fois, on a une discussion et on ne sait pas, on cherche un truc, et là, le réflexe, chercher mon portable pour avoir la réponse. Parce que maintenant, quand on se pose une question, eh bien, on prend le portable et on trouve la réponse. C'est un truc de fou, hein? Mais ça nous habitue mal, mais c'est grave. On ne sait plus attendre. On ne sait plus prendre le temps de chercher, de s'interroger. On a besoin de persévérance. On a besoin de persévérance. Les disciples, ils ont été persévérants. Ils n'ont pas vu la promesse le premier jour, ils n'ont pas vu le deuxième, ils n'ont pas vu le troisième, ils ont attendu. Et au bout d'un moment, ce que Jésus a dit, il l'a fait. Amen. Il y a eu, justement, du fait de cette attente, je pense qu'il y a eu un effet de surprise. Il dit soudain, soudain, wouh! Ils ont dû se dire, waouh, qu'est-ce qui se passe? Saint-Esprit est venu, fouf! L'Esprit vient et souffle tout à coup, le Saint-Esprit vient. Ce n'est pas les hommes qui commandent. Ce n'est pas les hommes qui commandent. C'est Dieu qui commande. C'est lui qui choisit le bon moment. Je pense à cette matinée où on a prié pour que le Saint-Esprit vienne sur nous. Peut-être toi, tu n'as. Personnellement, j'ai été renouvelé par le Seigneur. Vous savez, baptisé, ça veut dire immerger. Donc, des fois, quand on dit qui veut être baptisé du Saint-Esprit, tous ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit sont là. Et non, mais toi aussi, tu dois. Baptiser, ça veut dire immerger. Ça ne veut pas dire la première fois, ça veut dire immerger. Donc, si tu as déjà été baptisé du Saint-Esprit, tu n'as plus besoin d'être immergé, toi. Mais moi, quand on dit qui veut être baptisé du Saint-Esprit, je me lève. Et là, tout le monde regarde. Oh, le pasteur, il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Mais c'est parce qu'on n'a pas compris ce que ça veut dire baptiser. Baptiser, ça veut dire immerger. Moi, je veux être immergé tout le temps. Et si on dit qui veut être baptisé du Saint-Esprit, je me lève. Amen. Et on doit tous se lever quand on dit qui veut être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Ils étaient là et ils désiraient Saint-Esprit. Nous, ce matin, c'est ce qu'on a désiré. Peut-être toi, il ne s'est rien passé pour toi. Mais recommence demain, comme les apôtres commencent. Ce n'est pas le pasteur qui décide. Ce n'est pas toi qui décides, c'est Dieu qui décide. Mais toi, tu dois faire une chose, c'est persévérer. Amen. Il est parlé d'un bruit. Ah. Il y en a qui s'appuient là-dessus pour dire, il faut du bruit. Non, mais le bruit, il vient d'où? Il vient d'où le bruit? Il vient du ciel. Il vient d'en haut. Il vient pas d'en bas. Donc c'est pas en faisant du bruit qu'on obtient le Saint-Esprit, hein. Le bruit, il vient du ciel. C'est un vent. Parce que quand le vent souffle, il fait du bruit. Un vent impétueux, il est parlé. Vous avez déjà entendu le vent souffler? Vous ne le voyez pas, mais vous l'entendez souffler, le vent. Non, vous n'avez jamais entendu le vent souffler? Ah, dis donc, vous n'avez jamais eu une tempête, vous. Quand ça souffle, ça s'entend, hein? Les ouf. On ne doit pas fabriquer. C'est très important ce que je dis. On ne doit pas fabriquer les choses humainement, en essayant par des moyens humains de provoquer quelque chose. Ça, c'est très difficile. Et dans les églises d'aujourd'hui, on a du mal avec ça. On veut provoquer les choses à tout prix. On veut absolument faire parler les gens en langue. Alors on leur impose les mains, on appuie bien sur leur tête et on crie bien. On dit, il va se passer. Mais non, c'est pas. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Faisons confiance au Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Il est parlé d'un feu. C'est Jean-Baptiste qui a donné cette image. Il vous baptisera d'esprit et de feu. Il y a plusieurs images dans le feu. Il y a la puissance. Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Il y a la purification. Le Saint-Esprit, c'est l'apôtre Paul qui nous dit ça dans Galates chapitre 5, verset 16. Si vous marchez selon l'Esprit, vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. D'accord ? Le Saint-Esprit purifie mes pensées. Si mes pensées sont purifiées, je ne pêche plus. Parce que le péché, ça part d'où ? Ça part de là. Si j'y pense pas, je le fais pas. Si j'y pense et que le Saint-Esprit vient pas au contrôle, je le fais. D'accord ? Le Saint-Esprit purifie nos pensées. Le Saint-Esprit, c'est une lumière. Le Saint-Esprit nous éclaire et nous donne du discernement. Il nous permet de comprendre ce que Dieu nous dit dans sa parole. Waouh, c'est super ça, non ? Eh oui, parce que si vous voulez être un témoin, il faut que vous ayez d'abord compris. Hein. Parce que si vous expliquez aux autres quelque chose que vous n'avez pas compris, ça va être compliqué. Et puis la chaleur. On a parlé des bras d'amour du Seigneur. Quand le Saint-Esprit nous visite, on ressent une chaleur, quelque chose qui vient, qui remplit notre être, qui nous fait du bien. Amen. Le feu, ça fait peur, hein, mais un bon feu de cheminée quand il fait froid, ça fait du bien. Hein. Se mettre à côté du feu, là, ah, fait du bien. Amen. La chose que je vois aussi, après la soudaineté, après le bruit, après le feu, je vois les deux dimensions aussi qu'il y a dans la Pentecôte. Une dimension individuelle et une dimension collective. Il est dit qu'on voit comme des langues qui se posent sur l'ensemble des disciples. C'est ça qu'il est écrit ? Sur chacun. Sur chacun. C'est une expérience individuelle, le baptême du Saint-Esprit. Mais en même temps, il est dit, tous furent remplis. Ah, ça c'est mon rêve, je dis Seigneur, je veux voir ça dans mon église. Tous remplis. Qu'il n'y ait pas les langues qui descendent sur chacune de nos têtes, puis hop, elles se détournent parce que la personne... Non, je ne veux pas. Mais qu'on puisse tous ouvrir nos cœurs pour que le Saint-Esprit vienne nous envahir, nous immerger. Amen. Quand on voit le changement d'attitude des apôtres après cette expérience, on ne peut pas contester la puissance du Saint-Esprit, le caractère indispensable du Saint-Esprit. Les apôtres sont devenus d'autres personnes. Si tu veux devenir une autre personne, tu dois demander à Dieu de te remplir du Saint-Esprit. Si tu as des problèmes avec la colère, si tu as des problèmes avec l'amertume, le manque de pardon, si tu as des problèmes avec ton caractère, si tu as des problèmes avec des addictions, avec des mauvaises pensées, tu demandes au Seigneur le Saint-Esprit. Seigneur, viens. Tu vas me dire, ah ben non, je suis trop impur, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Ah ben oui, ben, comment on fait alors? Si tu es impur, tu ne peux pas te sortir de ton impureté. Hein. Mais Dieu vient là où il y a l'impureté. Il peut, pourquoi? Parce qu'il y a eu le sang de Jésus. Alors bien sûr, avant de dire, Saint-Esprit, viens en moi, tu dois avoir accepté Jésus comme ton sauveur. Et tu dois avoir lui demander de te purifier de tes péchés, bien sûr. C'est la première étape. Et je t'invite à le faire ce matin si tu ne l'as jamais fait. Dis Seigneur, je viens à toi. Je reconnais mon impureté. Et je te remercie parce que sur la croix, tu as pardonné mes péchés. Et tu le crois qu'il l'a fait. Tu le crois. Même si tu as fait des choses très vilaines, très mauvaises, qui sont là, qui te poursuivent, qui mettent une culpabilité sur ta vie, le Seigneur, il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, il a effacé les ordonnances d'accusation à notre égard. Donc c'est la parole qui le dit, moi je le crois. Si je ne le croyais pas, je ne serais pas devant vous. Je ne pourrais pas vous annoncer la parole si je ne croyais pas que Dieu ait effacé la condamnation de ma vie. Je suis comme vous. Condamné à l'enfer si Jésus-Christ ne vient pas me sauver. Et quand tu as accepté Jésus, alors demande-lui de te remplir du Saint-Esprit. il pourra le faire parce que désormais, puisque tu as accepté Jésus comme ton sauveur, ton cœur est purifié, il est lavé et ta vie peut recevoir le Saint-Esprit. Amen. Tu es le temple du Saint-Esprit. La dernière chose dont il est parlé, c'est qu'ils ont parlé des langues nouvelles. Ah. Peut-être certains d'entre vous ont été un peu perturbés ce matin en entendant les gens parler avec des langues bizarres. Mais on n'a pas inventé tout ça. Déjà, on vient de le lire à la Pentecôte, c'est ce qui s'est passé. Quand les gens étaient remplis de Saint-Esprit, ils ont parlé des langues nouvelles. Mais c'était déjà annoncé par Jésus. Est-ce que vous connaissez le texte de Marc 16, versets 17 à 18? Je ne sais pas si je l'ai mis. Oui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et regardez tout ce que pourront faire les gens qui ont cru en Jésus. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est pas mal. Ils parleront de nouvelles langues. C'est pas une église pentecôtiste qui a inventé ça. C'est Jésus qui le dit. Jésus dit, ceux qui ont cru en moi, ils parleront de nouvelles langues. Et donc, nous ne devons pas avoir peur de ça. Mais nous devons au contraire le rechercher. Rechercher à être rempli du Saint-Esprit. Ne pas chercher à parler des nouvelles langues, chercher à être rempli du Saint-Esprit. Si vous êtes rempli de l'Esprit, vous allez voir, ça va venir tout seul. Je conclue ces moments. Cette expérience de la Pentecôte, elle est fondatrice. Pas d'église s'il n'y avait pas eu ça au départ. Vous en êtes conscient? S'il n'y a pas ça au départ, on ne serait pas là. Tout simplement. Il n'y a pas d'église, la parole ne se serait pas répandue comme elle serait répandue, etc. Ils ont pu être des témoins jusqu'aux extrémités de la terre parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Amen. Et nous, nous voulons nous inscrire dans cette dynamique. Parce que si l'Église a fait ce saut en avant, cette naissance et cette croissance soudaine, parce qu'il y avait le Saint-Esprit, nous ne voulons pas arrêter ce cycle en étouffant le Saint-Esprit. Moi, je veux une croissance spirituelle et une croissance en nombre. Je veux les deux. Je veux les deux. Je ne veux pas faire du chiffre, je ne veux pas dire on a fait tant de bad. Je veux que les gens soient sauvés. Je veux que les gens soient sauvés. Je le répète suffisamment ici. Si quelqu'un se convertit qui va dans une autre église, ça m'est égal. S'il a rencontré Jésus, c'est ça que je veux. C'est tout. Cette expérience, elle est fondatrice. On parle de fondement, le Saint-Esprit et le fondement. Individuellement et collectivement. Chacun rempli du Saint-Esprit et tous ensemble remplis du Saint-Esprit. Avec des cultes où il y a la visitation de Dieu. Avec des miracles et des prodiges qui s'accomplissent. Amen. Sans cette effusion, il n'y a pas de moisson. Sans cette effusion, il n'y a pas de moisson. Et je voudrais juste préciser que cette effusion du Saint-Esprit n'était pas réservée aux apôtres et aux premiers chrétiens, comme certains le disent. La Bible le montre, le Saint-Esprit est à l'œuvre, encore aujourd'hui. Amen. Et dans le livre des Actes des Apôtres, nous le verrons, le Saint-Esprit a continué à être répandu, pas seulement sur les premiers apôtres. La prochaine étude, nous verrons le renouvellement et la dispensation du Saint-Esprit. Ce sera le prochain culte sur les fondements que nous verrons ensemble. Je vous rappelle ce qui est dit dans Luc 11, 13. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? J'aimerais que vous puissiez vous appuyer sur cette promesse. Vous la regardez, s'il vous plaît ? Vous la regardez là ? Vous regardez ce qui est écrit en rouge. Et vous dites, Seigneur, tu l'as promis aux apôtres, ça s'est passé. Là, tu me le promets à moi, alors je crois que ça va se passer. Amen. Pour tous ceux qui n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit encore, saisissez cette parole. Le Saint-Esprit sera donné à celui qui le demande. Attention, pas au moment où vous le demandez, pas au moment où vous claquez des doigts, mais à un moment donné, si vous restez sur cette parole avec foi, vous recevrez le Saint-Esprit comme les apôtres l'ont reçu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on veut voir la moisson? Alors moi, je veux d'abord, avant la moisson, la dispensation du Saint-Esprit sur ma vie personnelle, sur l'Église. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Alléluia, gloire à toi, Jésus. Merci Seigneur, sois béni. Gloire à toi, Jésus. Qu'on puisse vraiment disposer, comme on l'a dit dans ce chant, me voici devant toi, Seigneur. Présente-toi devant Dieu ce matin. Même toi qui es adolescent, il y a les ados parmi nous, je les encourage. Valérie, mon épouse, elle a été baptisée du Saint-Esprit à 11 ans. Donc ne croyez pas que vous devez attendre d'être adulte pour être baptisé du Saint-Esprit. Demandez-le maintenant. Si vous ne le demandez pas, mais demandez-le. Demandez, Seigneur, je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux recevoir cette promesse. Elle est pour moi aussi, je la veux. Amen. Tu fais cette prière dans ton cœur et tu peux t'attendre à ce que peut-être maintenant ou peut-être dans la semaine, eh bien, le Saint-Esprit vienne sur toi et qu'il se manifeste au travers du parler en langue. Amen. Seigneur, merci pour ces instants. Merci pour ta parole. Je sais que tu es puissant, Seigneur. Je n'ai aucun doute sur ce que tu es capable de faire. Moi, je ne peux rien faire. Mais ce que j'ai annoncé, c'est ce que tu dis, toi. Et tu n'es pas un menteur pour dire quelque chose et ne pas l'accomplir. Alors, Seigneur, merci. Que le Saint-Esprit descende dans ce lieu, que la foi soit communiquée à chacun pour s'approprier cette promesse, que tu donnes le Saint-Esprit à celui qui te le demande. Oh, merci Seigneur. Merci parce que tu es là, tu es présent. Alléluia, gloire à toi Jésus. À toi la gloire. Prenez l'engagement de prier pour ça. Prends l'engagement de prier pour ça pendant toute cette semaine, de venir devant le Seigneur et lui dire, je veux recevoir le Saint-Esprit. Prends cet engagement. Toi qui es déjà baptisé, prends cet engagement à chercher plus régulièrement un renouveau dans ta vie. À ne pas rester sur les acquis, mais à demander ce renouvellement. Chaque jour, chaque matin, il est dit que ces bontés sont renouvelées. Elles sont jamais épuisées. Alors tu peux venir à chaque moment devant le Seigneur et réclamer ce renouvellement. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi, merci pour ta présence au milieu de nous. Combien je te loue, Seigneur. À toi toute la gloire et l'honneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gardez précieusement ce bon dépôt, comme l'apôtre Paul l'a dit à Timothée, garde le dépôt. Gardez cette parole. Le diable va utiliser 10 milliards de manières pour vous faire sortir ça de la tête. Vos préoccupations, vous allez rentrer, préparer le repas, machin et ça. Et hop! Non. On dit que non. Non. Ça ne va pas sortir de nos têtes. Amen. On va y faire attention, on va y veiller. Que le nom du Seigneur soit béni.